Jules Verne, Maître du Monde. Chapitre 14. Le Niagara. Cependant, le temps s'écoulait et la situation ne se modifiait pas. Le timonier était revenu à la barre, le capitaine, à l'intérieur, surveillait la marche des machines. Je le répète, même lorsque la vitesse s'accroissait, le moteur fonctionnait sans bruit, avec une remarquable régularité. Jamais un de ces à-coups inévitables qui résultent de l'emploi des cylindres et des pistons. J'en concluais donc que le déplacement de l'épouvante, dans chacune de ces transformations, s'effectuait au moyen de machines rotatives. Mais impossible de m'en assurer. D'autre part, j'observais que l'orientation ne changeait pas. Toujours vers le nord-est du lac, et par conséquent en direction de Buffalo. Pourquoi le capitaine suit-il cette route ? Me disais-je. Il ne peut avoir l'intention de mouiller dans ce port, au milieu de la flottille de pêche et de commerce. S'il veut sortir de l'Érier, ce n'est pas le Niagara qui lui offrirait passage, et les chutes sont infranchissables même avec un appareil tel que le sien. Le seul chemin, c'est Détroit River, et l'épouvante s'en éloigne visiblement. Cette pensée me vint alors. Peut-être le capitaine attend-il la nuit pour rallier l'une des rives de l'Érier. Là, le bateau, changé en automobile, aura vite fait de traverser les États voisins. Si je ne parvenais pas à m'enfuir pendant ce trajet sur terre, tout espoir de recouvrer ma liberté serait perdu. Il est vrai, je finirais par savoir où ce maître du monde se cachait. Et si bien qu'on n'avait jamais pu découvrir sa retraite, à moins toutefois qu'il ne me débarquât d'une façon ou d'une autre. Et ce que j'entends par débarquement, on le comprend de reste. Cependant, cette pointe nord-est du lac, je la connaissais, ayant souvent visité la partie de l'État de New York, comprise entre Albany, son chef-lieu, et la cité de Buffalo. Certaines affaires de police, qui remontaient à 3 ans, m'avaient permis d'explorer les rives du Niagara, en amont et en aval des cataractes, jusqu'à Suspension Bridge, de visiter les deux principales îles entre Buffalo et la bourgade de Niagara Falls, puis l'île Navy, puis Goat Island, qui sépare la chute américaine de la chute canadienne. Si donc une occasion de fuir se présentait, je ne me trouvais donc pas en pays inconnu. Mais s'offrirait-elle cette occasion ? Et au fond, le désirais-je et en profiterais-je ? Que de secrets encore dans cette affaire ? À laquelle la bonne chance, la mauvaise peut-être, m'avait si étroitement mêlée. D'ailleurs, que j'eusse la possibilité de gagner une des rives du Niagara, il n'y avait guère lieu de le supposer. L'épouvante ne s'aventurerait pas sur cette rivière sans issue, et probablement, elle ne se rapprochera pas du littoral de l'Érier. Au besoin, elle s'immergerait, et après avoir descendu Détroit River, redevenant automobile sous la conduite de son chauffeur, elle suivrait les routes de l'Union. Telles étaient les idées qui affluaient en moi, tandis que mon regard parcourait inutilement l'horizon. Et toujours cette tenace question qui demeurait insoluble. Pourquoi le capitaine m'avait-il écrit la lettre menaçante que l'on sait ? Dans quel intérêt venait-il me surveiller à Washington ? Et enfin, quel lien le rattachait au Great Eyrie ? Qu'il pût, par des canaux souterrains, s'introduire dans le lac Kirdall, soit. Mais à travers l'infranchissable enceinte, non. Cela, non. Vers 4 heures de l'après-midi, étant donné la vitesse de l'épouvante, d'une part, et sa direction de l'autre, nous ne devions pas être à plus de 15 000 de Buffalo, dont la silhouette ne tarderait pas à se dessiner au nord-est. Au cours de cette navigation, si quelques bâtiments furent aperçus, ils passaient à longue distance. Et cette distance, le capitaine la tenait telle qu'il lui convenait. Au surplus, l'épouvante était peu visible à la surface du lac, et au-delà d'un mille, difficile à apercevoir. Cependant, les hauteurs encadrant la pointe de l'Érier commençaient à se profiler en formant au-delà de Buffalo cet entonnoir par lequel l'Érier déverse ses eaux dans le lit du Niagara. Quelques dunes s'arrondissaient sur la droite, des bouquets d'arbres se groupaient çà et là. J'apercevais au large plusieurs navires de commerce ou chaloupes de pêche à voile ou à vapeur. Le ciel se salissait par endroits de panaches fumeux, que rabattait une légère brise de l'est. À quoi donc songeait le capitaine en se dirigeant vers ce port? La prudence ne lui interdisait-elle pas de s'y aventurer? Aussi, à chaque instant, m'attendais-je à ce qu'il donnât un coup de barre pour revenir vers la rive occidentale du lac, à moins qu'il n'eût l'intention de s'immerger afin de passer la nuit dans les profondeurs de l'Érier. Mais cette persistance à tenir le cap sur Buffalo, impossible de la comprendre. À ce moment, le timonier, dont les yeux interrogeaient le nord-est, fit un signe à son compagnon. Celui-ci, se relevant, vint au panneau central et descendit dans la chambre des machines. Presque aussitôt, le capitaine monta sur le pont et, rejoignant le timonier, s'entretint avec lui à voix basse. Celui-ci, la main tendue en direction de Buffalo, indiquait deux points noirâtres qui se déplaçaient à 5 ou 6 milles par tribord de vent. Le capitaine regarda attentivement de ce côté. Puis, haussant les épaules, il vint s'asseoir à l'arrière, sans modifier la marche de l'épouvante. Un quart d'heure après, j'eus reconnu que deux fumées se dessinaient dans le nord-est. Peu à peu, la forme des points s'accusa plus nettement. C'étaient deux steamers, sortis du port de Buffalo, qui s'approchaient avec rapidité. Soudain, j'eus la pensée que ces steamers étaient les destroyers dont m'avait parlé M. Ward, chargés depuis quelque temps de surveiller cette partie du lac, ceux-là même dont je pouvais réquisitionner le concours. Ces destroyers, d'un type récent, comptaient parmi les steamers les plus vite construits aux États-Unis. Mus par de puissantes machines au dernier degré de la perfection, leurs essais avaient obtenu 27 000 à l'heure. Il est vrai, l'épouvante possédait une marche très supérieure, et en tout cas, si serrée de trop près, la retraite eût paru impossible, il lui suffirait de s'immerger, et elle serait à l'abri de toute poursuite. En réalité, il aurait fallu que ces steamers fussent plutôt des submersibles que des destroyers, pour lutter avec quelque chance de succès. Et je ne sais même pas si la partie eût été égale. Ce qui maintenant ne semblait pas douteux, c'est que les commandants de ces navires avaient été prévenus, peut-être par Wells, qui dès son retour à Toledo leur aurait expédié une dépêche. Il paraissait évident d'ailleurs qu'ayant aperçu l'épouvante, ils marchaient à toute vitesse sur elle. Et pourtant le capitaine, sans paraître s'en préoccuper, continuait à se diriger vers le Niagara. Qu'allaient faire les destroyers? Assurément, ils manœuvreraient de telle façon que l'épouvante fût contrainte à s'engager dans l'angle de l'Érier, en laissant Buffalo sur tribord, puisque le Niagara ne lui offrait aucun passage. Le capitaine était venu prendre la barre, l'un des hommes à l'avant, l'autre dans la chambre des machines. L'ordre n'allait-il pas m'être donné de rentrer dans ma cabine? Il n'en fut rien, à mon extrême satisfaction, et pour tout dire, personne ne s'occupait de moi, pas plus que si je n'eusse été à bord. J'observais, non sans une vive émotion, l'approche des destroyers. À moins de 2 000 alors, ils évoluaient de manière à tenir l'épouvante entre deux feux. Quant au maître du monde, sa figure ne montrait que le plus profond dédain. Ne savait-il pas que ces destroyers ne pouvaient rien contre lui? Un ordre envoyé à la machine et il les distancerait, si rapides fussent-ils. En quelques tours de moteur, l'épouvante serait hors de la portée de leurs canons. Et ce n'est pas dans les profondeurs de l'Érier que les projectiles iraient atteindre le sous-marin. 10 minutes plus tard, c'est à peine si 1 mille nous séparait des deux bâtiments qui nous donnaient la chasse. Le capitaine les laissa s'approcher encore. Puis il appuya sur la manette, et l'épouvante, sous l'action redoublée de ses propulseurs, bondit à la surface du lac. Elle se jouait de ses destroyers, et au lieu de revenir en arrière, continua sa marche en avant. Qui sait si elle n'aurait pas l'audace de passer entre eux, de les entraîner à sa suite, jusqu'à l'heure où, la nuit venue, il serait forcé d'abandonner cette poursuite inutile. La ville de Buffalo se dessinait alors sur la rive de l'Érier. Je voyais distinctement ses édifices, ses clochers, ses élévateurs. Un peu plus au nord-ouest s'ouvrait le Niagara, à 4 ou 5 milles de distance. Dans ces conditions, à quelle partie devais-je m'arrêter? étant bons nageurs, lorsque nous serions par le travers des destroyers, ou plutôt entre eux, ne serait-ce pas l'occasion de me jeter à l'eau, occasion qui ne se reproduirait peut-être plus? Le capitaine ne pourrait s'attarder à me reprendre. En plongeant, n'aurais-je pas la chance de lui échapper? Je serais aperçu de l'un ou de l'autre navire. Qui sait si les commandants n'avaient pas été prévenus de ma présence possible à bord de l'épouvante? Une embarcation viendrait me recueillir. Évidemment, les chances de succès seraient plus grandes si l'épouvante s'engageait entre les rives du Niagara. À la hauteur de l'île Navy, je pourrais prendre pied sur un territoire que je connaissais bien. Mais supposer que le capitaine se lancerait sur cette rivière barrée par les cataractes, cela me paraissait impossible. Donc je résolus de laisser les destroyers s'approcher davantage, et le moment venu, je me déciderai. Car, faut-il l'avouer, ma décision n'était pas arrêtée. Non, je ne pouvais me résigner, en m'échappant, à perdre toute chance de pénétrer ce mystère. Mes instincts de policier se révoltaient à cette pensée que je n'avais qu'à étendre la main pour saisir cet homme mis hors la loi. Non, je ne me sauverais pas. C'eût été abandonné pour jamais la partie. Il est vrai quel sort m'attendait, et jusqu'où m'entraînerait l'épouvante si je restais à bord. Il était 6h15. Les destroyers se rapprochaient, laissant entre eux une distance de 12 à 15 encablures. L'épouvante, sans même forcer sa vitesse, ne tarderait pas à avoir l'un sur bâbord, l'autre sur tribord. Je n'avais pas quitté ma place. L'homme de l'avant était près de moi. Immobile à la barre, les yeux brillants sous ses sourcils contractés, le capitaine attendait peut-être l'instant d'en finir par une dernière manœuvre. Soudain, une détonation retentit à bord du destroyer de gauche. Un projectile, rasant la surface des eaux, passa sur l'avant de l'épouvante et disparut à l'arrière du destroyer de droite. Je me redressai. Debout à mon côté, l'homme semblait guetter un signe du capitaine. Celui-ci ne tourna même pas la tête, et jamais je n'oublierai l'expression de mépris qui se peignait sur son visage. À l'instant, je fus poussé vers le panneau de ma cabine qui s'abattit sur moi, tandis que les autres panneaux se refermaient. À peine une minute s'écoula-t-elle avant que la plongée s'effectuât. Le sous-marin avait disparu sous les eaux du lac. D'autres coups de canon éclatèrent encore, dont le sourd fracas arriva jusqu'à mon oreille. Puis tout se tut. Une vague lueur arrivait par le hublot de ma cabine. L'appareil, sans roulis ni tangage, filait silencieusement à travers les rayons. On voit avec quelle rapidité, avec quelle facilité aussi, s'était faite cette transformation de l'épouvante, non moins rapide, non moins facile sans doute, lorsqu'il s'agissait de circuler sur les routes. Et maintenant, qu'allait faire le maître du monde? Très probablement, il modifierait sa direction, à moins que l'épouvante, après avoir touché terre, ne dût redevenir automobile. Mais à bien réfléchir, je pensais qu'il rallierait plutôt l'ouest, dès qu'il aurait dépisté les destroyers, et regagnerait alors l'embouchure de Detroit River. L'immersion ne se prolongerait vraisemblablement que le temps nécessaire pour se mettre hors de portée des projectiles, et la nuit amènerait la fin de cette poursuite. Il n'en fut pas ainsi. À peine 10 minutes s'étaient-elles passées qu'une certaine agitation se produisit à bord. Des paroles échangées dans la chambre des machines se faisaient entendre. Un bruit de mécanisme les accompagnait. Je crus comprendre qu'une avarie obligeait le submersible de revenir à la surface. Je ne me trompais pas. En un instant, la demi-obscurité de ma cabine s'imprégna de lumière. L'épouvante venait d'émerger. J'entendais marcher sur le pont, dont les panneaux se rouvrirent, même le mien. Le capitaine avait repris sa place à la barre, tandis que ses deux hommes étaient occupés à l'intérieur. Je regardais si les destroyers étaient en vue. Oui, à un quart de mille seulement. L'épouvante réaperçut et lui donnait déjà la chasse. Mais cette fois, ce fut dans la direction du Niagara. Je ne compris rien à cette manœuvre, je l'avoue. Engagé dans ce cul-de-sac, ne pouvant plus plonger par suite d'avarie, l'appareil trouverait sa route barrée par les destroyers lorsqu'il voudrait revenir en arrière. Chercherait-il donc à atterrir? À s'enfuir sous la forme d'automobile, soit à travers l'État de New York, soit à travers le territoire canadien? L'épouvante avait alors un demi-mille d'avance. Les destroyers la poursuivaient à toute vapeur, dans des conditions défavorables, il est vrai, pour l'atteindre avec leurs pièces de chasse. Elle se contentait de garder cette distance. Pourtant, il eût été facile de l'accroître, et à la nuit tombante, de revenir vers les parages de l'ouest. Déjà Buffalo s'effaçait sur la droite, et un peu après 7 heures, apparut l'entrée du Niagara. S'il s'y engageait, sachant qu'il n'en pouvait plus sortir, le capitaine aurait perdu raison. Et au fait, n'était-il pas fou, celui qui se proclamait, qui se croyait maître du monde? Je le voyais là, calme, impassible, ne se retournant même pas pour observer les destroyers. Du reste, absolument déserte, cette partie du lac. Les navires à destination des bourgades situées sur les rives du Niagara n'étant pas nombreuses, aucun ne se montrait. Pas même une chaloupe de pêche ne croisait la route de l'épouvante. En tout cas, si les deux destroyers le suivaient sur le Niagara, ils seraient bientôt contraints de stopper. J'ai dit que le Niagara s'ouvre entre la rive américaine et la rive canadienne. D'un côté Buffalo, de l'autre le fort Erie. Sa largeur, 3/4 de mille environ, diminue aux approches des chutes. Sa longueur, de l'Erie à l'Ontario, mesure une 15aine de lieues. Et c'est en coulant vers le nord qu'il déverse dans ce dernier lac les eaux des lacs supérieurs, Michigan et Huron. Une différence de 340 pieds existe entre l'Erie et l'Ontario. La chute n'en mesure pas moins de 150. Appelée Horseshoe Fall, parce qu'elle affecte la forme d'un fer à cheval, les Indiens lui ont donné le nom de tonnerre des eaux. Et c'est bien un tonnerre qui roule sans relâche et dont les fracas s'entendent à plusieurs milles de la cataracte. Entre Buffalo et la bourgade de Niagara Falls, deux îles divisent le cours de la rivière. L'île Navy, une lieue en amont du Horseshoe Fall, et Goat Island, qui sépare la chute américaine de la chute canadienne. Sa pointe portait autrefois cette Terrapin Tower, si audacieusement posée en plein torrent sur le bord même de l'abîme. On a dû l'abattre, car avec le recul constant de la cataracte, elle eût été entraînée dans le gouffre. Deux bourgades sont à citer le long du cours supérieur du Niagara. Schlosser de la rive droite, Chippewa de la rive gauche, précisément de chaque côté de l'île Navy. C'est à cette hauteur que le courant, sollicité par une pente de plus en plus forte, s'accentue pour devenir 2000 en aval, la célèbre cataracte. L'épouvante avait dépassé le fort Erie. Le soleil se balançait à l'ouest au-dessus de l'horizon canadien, et la lune, pleine alors, sortait des brumes du sud-ouest. La nuit ne serait pas faite avant 1 heure. Les destroyers, forçant leur feu, suivaient à la distance 1 mille, sans rien gagner. Ils filaient entre ces rives ombragées d'arbres, semées de cottages, qui s'étendent en longues plaines verdoyantes. Évidemment, l'épouvante ne pouvait plus revenir en arrière. Les destroyers l'eussent coulé, et immanquablement. Il est vrai, leur commandant ignorait ce que je savais, moi. C'est qu'une avarie survenue à l'appareil l'avait obligé à regagner la surface du lac, et qu'il lui était impossible de s'échapper par une nouvelle plongée. Néanmoins, il continuait à aller de l'avant, et se maintiendrait sans doute à cette allure jusqu'à la dernière limite. Mais, si je ne m'expliquais pas cette chasse obstinée, je ne trouvais pas d'explication à la conduite de l'épouvante. La route lui serait barrée avant 1/2 heure par la cataracte. Si perfectionné que fût l'appareil, il ne l'était pas au point de pouvoir franchir le Horseshoe Fall. Et si le torrent l'emportait, il disparaîtrait dans ce gouffre de 180 pieds, que les eaux ont creusé en bas des chutes. Peut-être en accostant une des rives, aurait-il la ressource de s'enfuir sur ses roues d'automobile, en faisant du 240 à l'heure. Maintenant, quel parti prendre? Tenterais-je de me sauver par le travers de l'île Navy, dont il me serait facile d'atteindre les berges à la nage? Si je ne profitais pas de cette occasion, jamais, avec ce que je savais de ses secrets, jamais le maître du monde ne me rendrait la liberté. Eh bien, il me parut clairement alors que cette fois, toute fuite allait m'être interdite. Si je n'étais pas confinée dans ma cabine, j'étais du moins surveillée. Tandis que le capitaine se tenait à la barre, son compagnon près de moi ne me quittait plus des yeux. Au premier mouvement, j'aurais été saisie, enfermée. À présent, mon sort était bien lié à celui de l'épouvante. Cependant, la distance qui la séparait des destroyers était réduite en ce moment à quelques encablures. Était-ce donc que le moteur de l'épouvante, par suite d'accident, ne pouvait pas donner davantage? Pourtant, le capitaine ne montrait aucune inquiétude. Il ne cherchait point à atterrir. On entendait les sifflements de la vapeur qui s'échappait à travers les soupapes des destroyers, au milieu des panaches de fumée noire. Mais on entendait aussi les mugissements de la cataracte, à moins de 3 000 en aval. L'épouvante filait par le bras de gauche, le long de l'île Navy, dont elle eut bientôt dépassé la pointe. Un quart d'heure après, apparaissaient les premiers arbres de Goat Island. Le courant devenait de plus en plus rapide, et si l'épouvante ne voulait pas s'arrêter, les destroyers ne pourraient pas lui donner plus longtemps la chasse. Et s'il plaisait à ce capitaine maudit de s'engloutir dans les tourbillons du Horseshoe Fall, il ne le suivrait pas dans l'abîme. En effet, des coups de sifflet retentirent, et les destroyers stoppèrent alors qu'ils n'étaient plus qu'à 500 ou 600 pieds de la cataracte. Puis des détonations éclatant en amont, plusieurs projectiles passèrent le long de l'épouvante, sans l'atteindre. Le soleil venait de disparaître, et au milieu du crépuscule, la lune projetait ses rayons vers le nord. La vitesse de l'appareil, doublée de la vitesse du courant, était prodigieuse. En une minute, il tomberait dans ce creux noirâtre que forme en son milieu la chute canadienne. Je regardais d'un œil effrayé ces extrêmes berges de Goat Island. Puis, à sa tête, les îlots des Trois Sœurs, noyés sous l'embrun des eaux tumultueuses. Je me relevais. J'allais me lancer dans la rivière afin de gagner l'île. Les mains de l'homme s'appesantirent sur moi. Soudain, un violent bruit de mécanisme, qui jouait à l'intérieur, se fait entendre. Les grandes dérives, plaquées sur les flancs de l'appareil, se détendent comme des ailes, et au moment où l'épouvante est entraînée dans la chute, elle s'élève à travers l'espace, franchissant les mugissantes cataractes au milieu d'un spectre d'arc-en-ciel lunaire.